Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission bilan de l'année 2019. Je suis Shinji et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Bouchor. Bonjour Bouchor.
Bonjour.
Par Gus Gus. Bonjour Gus Gus.
Bonjour.
Et par Yannick Doc. Bonjour Yannick Doc.
Bonjour, bonne année.
Et
ah
bonne,
oui,
année,
bonne année,
bonne année, bonne année.
Surtout la santé, hein.
Si vous nous écoutez au moment où oui. C'est publié, nous sommes peut-être virtuellement, potentiellement, complètement torchés.
On a sans doute un gros mal de crâne, quoi.
Et je serai probablement torché dans 2 jours, puisque je ne manquerai pas, je pense, de vous re-souhaiter la bonne année. je ne veux pas déplorer ces émissions.
Retour à le futur.
Ah non, mais c'est mes petits, c'est mes talents de médium.
C'est bien l'année 2020. C'est non, ça. Parce qu'avec tous ces problèmes temporels et tout, je ne sais plus.
Quand Shinji, ça va finir par se voir. Faudrait que tu changes l'ordre dans lequel tu nous présentes. Ça va finir par se voir que vraiment, on fait pas d'efforts pour cacher.
C'est l'ordre de différence.
Mais oui, mais on est entre des émissions où il y a pas nous ou pas forcément nous. Donc les gens, ils vont y voir que du feu.
Oui.
Prends nos auditeurs pour des cons aussi.
Et donc, en cette nouvelle année... arrêtez.
J'en ai marre.
T'as pris un temps tellement solennel, quoi.
Je vais faire semblant, j'en peux plus. Libérez-moi. On est le 15 décembre, il est 21h38, s'il vous plaît. J'en ai rien à foutre, on n'est pas à la télé, putain. Mentir aux gens.
Nous allons parler d'une équipe qui n'existe plus.
Ah, c'est vrai.
Eh oui, nous allons parler de la Scuderia Toro Rosso. La Scuderia qui, au niveau des notes des chroniqueurs, a obtenu un très joli 13,79, quatrième du classement. Très joli score.
Effectivement.
Au classement du SAV, Toro Rosso a fini sixième avec 34 points. Gviat a fini 14e du classement du SAV avec 10 points. Albon, pour la première partie de saison, donc les 12 premiers Grands Prix, a marqué 9 points pour Toro Rosso. Il faut savoir que sur cette première moitié, il a été 9e, hein, uniquement sur cette première moitié. Sinon, au classement total de l'année, il a fini 9e aussi. Et Gasly a marqué 15 points pour Toro Rosso. Il est le 7e meilleur marqueur sur la deuxième partie de saison, donc sur la partie qu'il a disputé chez Toro Rosso, et il a fini 11e du classement sur toute l'année. Au classement de la FIA, Toro Rosso a terminé 6e avec 85 points, Gviat est 13e, 37 points, Albon, donc 16 points sur la première partie de l'année, et Gasly, 32 points sur la deuxième partie de l'année. Et on peut noter, Toro Rosso, cette année, c'est 2 podiums.
Ouais, ils font leur meilleure année depuis 2008, non ?
C'est la meilleure année de Toro Rosso depuis 2008.
Ah, on sent qu'un pilote du calibre de Bourdet, ça leur manquait.
Ah putain, mais tu vas nous le
refonder
à toutes les sauces Bourdet, quoi.
Évidemment.
Bon. Ah, c'était le moment ou jamais en même temps. Hein.
Oui, parce que là, bon, ça va être un peu compliqué cette année.
Donc, très belle saison de Toro Rosso.
Alors,
au global.
Disons que quand il s'est agi de saisir les opportunités qui se sont présentées...
Ils étaient là.
Ils étaient là.
23 points en Allemagne, 19 points au Brésil.
Oui, donc la moitié, la moitié de leurs points leur point sur 2 courses. Quoi. Et sur les 2 Grands Prix, chaotique. Le reste du temps, ils n'ont pas été foncièrement mauvais. Mais c'était pas ça. Je saurais pas dire ce qui a manqué. Peut-être un poil de performance, un châssis peut-être pas, ou le moteur Honda qui est pas. Je sais pas. Il manquait peut-être un peu de partout, quoi.
Au niveau fiabilité, ça allait. Hein. Je regarde le détail. On a un problème de suspension pour Gasly aux États-Unis, une fuite d'huile en Italie pour Gviat. Sinon, après, oui, un accrochage en Azerbaïdjan, un retrait volontaire. Donc on peut imaginer peut-être un problème technique en Chine.
Ouais, pour économiser le moteur, un truc comme ça.
Pour économiser le moteur, mais rien de déconnant au niveau de la fiabilité.
Et puis, ils ont commencé l'année, de nouveau, dans le rien.
Enfin, Fiat, c'est pas vraiment. Enfin, oui et non.
C'est un retour de Fiat.
C'est le retour du retour.
C'est le Fiat 2.0 ou pas du tout?
Non, c'était le 3.0, je crois, de mémoire.
C'est le 2.26.
2.26B.
Pour faire référence à la déclaration de Bottas il y a deux semaines.
Mm. Ah, il y a deux semaines dans quelle timeline?
Non, il y a deux semaines dans la timeline de publication de cette émission. Ça s'appelle le professionnalisme.
Je vais tout ruiner, désolé.
Faut arrêter de mentir aux gens, c'était cette semaine.
Donc finalement, une équipe très opportuniste.
Bah, c'est ça. Comme se doit l'être une écurie de milieu de plateau, pour marquer des points.
C'est vrai que eux, c'est quand même le prototype de l'écurie de milieu de plateau. Quoi.
N'est-ce pas, Renault?
Mais voilà. N'est-ce pas, Hülkenberg?
On en reparlera hier.
Sur l'équipe, sur la voiture, non, rien d'autre à rajouter.
Alors déjà, c'est une équipe sympathique. Enfin, il y a quand même. Bon, après, c'est dans le groupe Red Bull, donc forcément, c'est.
C'est moins sympathique.
Ils sont moins sympathiques que les que l'écurie mère. Il y a Helmut Marko qui est dans le coin.
Il y a Franz Tost.
Il y a Franz Tost qui est toujours quelqu'un d'intéressant à écouter. Quelqu'un de très croustillant, Tost.
Il est plutôt beurré.
Ouais, c'est ça. Et c'est du beurre doux, par contre, c'est pas du beurre. Et
c'est du 31, contrairement, ça. Hein.
Contrairement, oui, ça doit être ça. C'est ça. Bien joué, ça. Non, mais bon, ça reste une. C'est l'ancienne Minardi. Alors bon, c'est l'identité qui mine de rien s'estompe petit à petit, hein, changement de nom cette année. Mais ça reste une écurie sympathique, ça reste une écurie alors petite par l'histoire. Enfin, l'histoire. C'est l'ancienne Minardi, mais depuis que Red Bull est monté au capital, ils sont quand même bien dotés. Red Bull Racing a moins besoin d'être financé qu'à ses débuts parce qu'il y a maintenant une masse de sponsors qui arrivent à financer l'écurie. Il y a un sponsor titre qui est Aston Martin.
Ça laisse de l'argent à Toro Rosso.
Ah, mais quand Infiniti était sponsor titre, qu'ils avaient toutes les ressources des quatre titres accumulés. Red Bull, l'investissement de Red Bull était extrêmement faible finalement. La maison de Red Bull en tant que boisson énergétique était extrêmement faible dans l'écurie principale, et ils pouvaient mettre des billes dans l'écurie secondaire. Là, ça va aller encore plus loin puisqu'ils vont mettre en tant que sponsor titre une filiale. Il faut savoir que ça fait un an ou deux ans que Red Bull est redevenu sponsor titre. C'est-à-dire que l'écurie dans l'engagement s'appelle Red Bull Toro Rosso Honda. Donc voilà, c'est pas une écurie qui se fait du souci pour sa survie. Mine de rien, par rapport à des concurrents dans le plateau...
Ça leur enlève déjà une belle épine, quoi.
C'est une différence. Et malgré ça, ils ont du mal à se démarquer. Ils ont du. Voilà. Et c'est pas aussi simple que ça pourrait l'être.
Un détail des notes des chroniqueurs. Ben Lop a mis un 16, Bilo 14, Buchor 13, Dino 15, Fab 14, Gus Gus 13, Yannick Doc 14, Marco 15, Redscape 13, Scanny 14, moi 12,5 et Spider 12. Très belle note, hein.
Ouais, c'est vrai, on les a peut-être un peu surnotés, je sais pas.
Il y a peut-être un effet fin de saison.
Ils sont sympathiques, ils ont deux podiums.
Et c'est pas lui
qui. C'est une écurie qui lance des jeunes pilotes.
Ils sont pas très loin du troisième et bien devant le cinquième. Hein, donc, peut-être dans ce cas-là, on peut passer aux pilotes. Alors, au niveau des qualifications entre Kvyat et Albon, c'est égalité. 6-6. Par contre, entre Kvyat et Gasly, là, c'est plus la même chose. Hein. C'était 7-2 pour Gasly.
Pouf!
Ah oui, alors parlons déjà peut-être de celui qui, lui, est resté toute la saison dans l'équipe, ce qui peut paraître presque étonnant quand on connaît son historique dans les écuries Red Bull.
Le plus surprenant, c'est qu'il soit toujours dans l'écurie alors que Verstappen a gagné une course.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, il a mis fin à la malédiction.
Bah, Kvyat, il savait Bon, c'est vrai que Toro Rosso le réembauchait pour, parce qu'il connaissait qu'ils avaient personne d'autre sous la main et que c'était, mine de rien, ça restait une valeur sûre. Et il a démontré cette année, même s'il a fait 2-3 quillateries, mais ça ouais, reste une valeur sûre.
Il en est même devenu le pilote qui a le plus disputé de Grand Prix avec Toro Rosso.
Oui, c'est avec 60.
Ça. Ah, c'est sûr que c'est pas Bourdet qui peut dire ça.
Oui, mais bon.
Est-ce que c'est la meilleure saison de Gviat chez Toro Rosso, j'entends?
Peut-être la meilleure demi-saison.
C'est vrai qu'après son podium, ça s'est un peu calmé quand même.
Après la Belgique, il fait une 7ème place en Belgique.
Ouais, c'est vrai quand même, oui. Et après, il y a un point au Japon, un point au Brésil et deux à Abu Dhabi. Bon. C'est vrai que comparativement, Gasly a été sur un rythme
plus impressionnant. Ça correspond à l'arrivée de Gasly, quoi, en fait. Ça lui a mis un petit coup de Gviat, quoi. Je pense qu'il a quand même espéré, je pense, à un moment ou un autre, de se dire « Putain, je vais peut-être retourner chez Red Bull. »
Non, à mon avis, c'est... je pense que le contrat est clair. Hein. Enfin, le contrat. Pas le contrat écrit, mais les conditions dans lesquelles il revient sont claires. Enfin, c'est déjà fait virer de chez Gasly. Et malheureusement pour Gasly, professionnellement parlant, quand tu redescends d'un échelon, c'est très difficile de remonter.
Ouais, mais tu ne penses pas quand même qu'il y a des micro-pensées si tu...
Ah bah qu'il y ait pensé, oui, mais mais que après, Helmut Marko y ait pensé.
Ah non, bah je pense que lui, ça n'a pas dû l'effleurer. Quoi.
À moins d'une catastrophe pour Albon en début de 2008, dans le début de la saison, ouais, j'imagine mal Gasly remonter chez Red Bull. Quoi.
Ah non, pour moi, c'est fini. En même temps, il est bien chez Toro Rosso.
Après,
ça lui plaît.
Après, il peut faire de la croissance externe. Comme on dit dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire monter l'échelon, mais en allant ailleurs.
Alors sinon, sur ce deuxième baquet, donc il y a Albon qui a été chez Toro Rosso sur les 12 premiers Grands Prix. Ce début de saison d'Albon, il est rookie. Est-ce qu'il était convaincant? Alors on sait qu'il a de facto convaincu du côté de chez Red Bull, hein, puisque c'est lui qu'ils ont mis finalement dans la Red Bull.
Il était plutôt convaincant, mais il lui manquait une certaine propension à convertir ça en résultat. Et puis, voilà. Il y a eu l'Allemagne. Alors bon, mine de rien, il convertit, mais Gviat fait mieux. Et puis, il y a eu la mutation.
Et donc là, Gasly arrive. Et alors, bon, c'est une rétrogradation. Mais est-ce que c'est quand même pas la meilleure chose qui lui soit arrivée?
Bah, carrément. Quand tu vois ses résultats de la deuxième partie de saison, ça lui... enfin, je sais pas, il avait l'air beaucoup libéré, beaucoup mieux chez... Ça lui correspond mieux Toro Rosso qu'à Red Bull.
Je pense que c'est surtout la voiture qui correspond mieux.
Ouais, la voiture, l'environnement... Enfin,
je suis pas sûr que... Alors, oui, effectivement, il y a l'environnement un peu...
Il a quand même marqué moins de points chez Toro Rosso que chez Red Bull. Bon, après, le nombre de Grands Prix n'est pas exactement pareil. Ouais, la voiture n'est pas non plus la même, on est bien d'accord.
Après, dans l'environnement, on va être. Je pense qu'on est. Personne n'est dupe et on suppose que. Bizarrement, que Kvyat est un coéquipier beaucoup moins envahissant que Verstappen.
Oui, c'est sûr, oui.
C'est clair.
Il y a beaucoup moins de raisons dans une écurie comme Toro Rosso d'avantager un pilote.
Oui, déjà.
Il n'y a pas de. Quand il revient chez Toro Rosso, il n'y a pas de... Alors, j'allais dire préjugé, c'est peut-être un bon terme, un mauvais terme, mais d'historique avec les essais privés où il a eu des accidents, où ça s'est pas forcément bien passé.
Ah non, mais de toute façon, quand Gasly quitte Toro Rosso pour être annoncé chez Red Bull, il quitte en bon terme, entre guillemets. Voilà, c'est une promotion.
C'est la suite logique. Sur le...
Non, mais quand il arrive chez Red Bull, il casse des voitures en essais privés. Oui. C'est quand même pas une bonne façon.
Il a pas commencé la bonne façon, ouais.
Non.
Puis même, on va pas faire Red Bull, mais...
Non, mais oui, il n'y a pas cet historique d'avoir pénalisé l'écurie en début de saison. Qu'elle arrive chez Toro Rosso, effectivement. Surtout que Gasly apparemment était très apprécié chez Toro Rosso, puisque c'est lui qui avait signé les meilleurs résultats en 2018. Oui, c'est un pilote qui, de toute façon, qui restait apprécié chez Toro Rosso. Donc, quand il revient, on va dire, il a accueilli les bras ouverts. Donc...
On peut même dire qu'il a quand même été le meilleur pilote Toro Rosso sur sa demi-saison. Enfin, je veux dire, il fait 32 points alors que Gviat, il en fait 37 sur toute la saison.
Ah, c'est sûr
vu comme ça, c'est vrai.
Maintenant, pour moi, de Gasly, là où il pêche, c'est mentalement. C'est comme je le disais à Abu Dhabi, moi, j'étais très déçu de sa réaction. Je trouvais démesurée par rapport à ce qu'il a subi au premier virage. C'était pas la première fois cette saison que je le voyais dans cet état. Et la pression, quand tu veux être un grand champion, quand tu veux être champion du monde, vainqueur de Grand Prix, voilà, un moment ou un autre, il faut que tu t'en accommodes. C'est pas ce dont il a fait montre cette année. Moi, qu'il ait des difficultés techniques avec la voiture, ça peut arriver. Encore une fois, il n'est pas forcément dans un environnement où c'est facile d'avoir deux voitures. Est-ce qu'elles ont été équivalentes, encore une fois, enfin, on en reparlera quand on parlera de Red Bull. Mais mentalement, après c'est des pilotes jeunes, hein, et Gasly il a 21, 22 ans, quelque chose dans le genre, 23 ans.
Oui,
il a encore un peu de marge. Hein.
Il va sur 24.
Il y a de la marge. Il y a de la marge. Quand bien même, voilà, il faut mentalement, il va peut-être falloir qu'il travaille sur lui-même pour supporter un peu plus la pression. Après, le Brésil montre que il y est parvenu, quoi. Parce que quand t'as un Hamilton derrière toi pendant deux tours qui te met une certaine pression et que t'arrives malgré tout à contenir ses assauts, c'est pas non plus que t'es friable. Mais c'est pas la même pression. Que la pression du résultat, que la pression en piste. Faut qu'il soit vigilant par rapport à ça.
Pour vous, la meilleure course de Toro Rosso, c'est l'Allemagne ou le Brésil ? D'un point de vue comptable, c'est l'Allemagne. Mais de la manière, on a l'impression que c'est plus le Brésil, oui.
Moi, c'est plutôt l'Allemagne sur le résultat d'ensemble. Au-delà de la comptabilité, ils mettent les deux voitures dans les points. Tu me diras au Brésil aussi, mais c'est une deuxième place et une dixième, quoi.
Alors, c'est la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux troisième et sixième ou deuxième et dixième, c'est ça?
Oui.
En termes de
alors,
c'est à peu près pareil. Hein.
Je vais être tout à fait je vais être tout à fait chauvin. Pour moi, le meilleur résultat, c'est le Brésil, mais.
Moi, je dirais l'Allemagne, parce que c'était la première fois qu'il revenait sur le podium.
Oui. D'un autre côté, une torpille qui est performante quand la piste est sous la pluie.
C'est logique.
C'est logique.
C'est vrai, trois podiums dans l'histoire de Toro Rosso, dont deux cette année, quoi.
Et deux derrière une victoire Red Bull, cette année.
Et d'ailleurs aussi, si je compte les podiums cette année... Oui, c'est ça, puisque McLaren en a fait une. Oui. Hein. Donc, techniquement, parmi les autres, eux, ils ont fait deux podiums. Et on sait que les places sur le podium hors top team se font rares ces dernières années.
Oui, j'avais commencé à faire des statistiques là-dessus, d'ailleurs.
Pour donner un ordre d'idée, en 2018, il y en a un de Force India, c'est Perez à Bakou, si je me souviens bien.
Oui.
Et 2017, il y en a un de chez Williams, c'est Stroll en Italie.
Bakou quand il s'est dépassé sur la ligne.
Il y a Bakou aussi.
Oui. Non, il a raison, je confonds. Parce que, en Italie, c'était bien qualifié, je crois. C'est pour ça. Il faut revenir à 2016 pour avoir deux équipes qui arrivent à monter sur un podium avec les top teams, quoi. C'est aussi pour ça que la note est quand même de 13,79. C'est pas immérité, hein, franchement. Quelque chose à rajouter sur les pilotes de chez Toro Rosso ?
Non.
Est-ce que Toro Rosso est vraiment un junior team maintenant ?
Ah, bonne question.
Ouais, c'est une bonne question, ça. Ouais.
C'est compliqué. Qui arrive ? Je sais, a priori, ils auront Youri Vips en F2 l'année prochaine. Tiktum, il me semble qu'il s'est viré.
Oui, c'est fini, ça.
Filière, c'est compliqué.
Junior
ça.
Team. En français, je pense. Oui, déjà, je vois Dan Tiktum, donc c'est clair que ne doit pas être à jour.
Question bête, mais du coup, les deux pilotes Toro Rosso ne sont-ils pas plus vieux que les deux pilotes Red Bull ?
C'est possible.
Ah, bien
donc,
vrai. Ah,
donc, possible. Donc, c'est le senior team.
Alors, le Red Bull Junior Team, il y a en effet Youri Vips.
Ah oui, ils ont récupéré Patricio Howard qui a fait un peu d'IndyCar cette année.
Alors, moi, je ne le vois plus Enfin, en tout cas, sur la page Wikipédia. Hein, donc,
Ah, moi, je suis sur la page Red Bull Junior Team.
Ah, d'accord, oui, donc...
Juniorteam.redbull.com. Voilà, Lucas Auer, Jack Doohan, Johnny Edgar, Dennis Hauger, Liam Lawson, Patricio Howard, Harry Thompson, qui a l'air d'avoir 8 ans, Yuki Tsunoda et Yuri Vips.
Ouais, tout ça, ça a été en F3, notamment cette année. Je sais pas combien d'entre eux seront en F2 l'an prochain.
Alors, je crois que Yuri Vips a été annoncé, ou il allait le faire, ou alors Juan Alesi l'a annoncé lors de Abu Dhabi, parce qu'il a annoncé lors des courses de F2 d'Abu Dhabi.
Et donc, officiellement, on peut dire que Toro Rosso est le... Ouais, AlphaTauri, pardon. Et le senior team de
Red Bull. Ah, t'as vérifié.
Je suis... Ouais, puisque Danny Kiat a 25 ans, Pierre Gasly a 23 ans. Il est né le 7 février 96.
Oui, précise. Bientôt 24. Ouais, il aura 24 en début de saison prochaine.
Albon a 23 ans, mais il est du 23 mars 96. Donc, il est un tout petit peu plus jeune que Gasly. Et Verstappen a 22 ans. Voilà.
22 ans, 5 ans de F1. Logique. Mais il l'a dit, là, il a dit, oui, je suis jeune, mais voilà, déjà vu le nombre de saisons que j'ai au compteur.
Bah, c'est vrai que il fait partie du paysage alors qu'il a 22 ans. Quoi.
22 ans.
Ce qui est fou, c'est que Kia, t'as que 25, j'aurais donné plus. Quoi.
Il a commencé très jeune aussi. Hein.
Ouais, ouais, bah, c'est clair.
Ah, bah, Red Bull, ils les mettent quand même souvent assez jeunes. Hein, quand...
Bah, il a pas commencé.
GP3, hein.
Il a pas commencé à 19 ans, Kia.
Ouais, ouais, quelque chose,
ouais, quelque chose comme ça, ouais.
Ouais, donc c'est sûr qu'il y a...
Rien d'autre non plus sur l'équipe, la voiture
ils ont quand même fait le choix de prendre Albon, qui était, il était pas prévu pour faire de la Formule 1 à la base.
Non.
C'était pas ça. Oui.
Albon. Enfin... Si, il avait signé en Formule 1.
Ouais, il avait signé un truc en Formule 1.
Oui, désengagé.
Oui, il avait signé chez Nissan, si je me souviens bien, en Formule 1.
Ouais, bon, d'un côté... Oui. D'un côté, quand t'as beau avoir un contrat en Formule 1, si on te propose, si Toro Rosso débarque pour te proposer un contrat en Formule 1,
ouais, ouais, mais il a quand même fallu casser son contrat.
Il a quand même bien géré son. Ouais,
ils auraient pu faire les connards. Hein, j'ai ça, hein, dire non, t'as un contrat, Coco, tu restes avec
nous.
Ouais, après, j'imagine que s'il y a des pénalités, les contrats de Formule 1, ça doit pas être les mêmes montants qu'en Formule 1. Ouais.
En plus, en F1, tu vas rouler avec un moteur Honda. Hein, super, nous, on est Nissan. Ça nous fait super plaisir.
C'est vrai que... il y avait quand même des trucs pour pas qu'il y aille, quoi. Pour qu'il s'oppose au truc, quoi.
Non, ils auraient été cool, hein, sur cette histoire Nissan, quand même.
Oui, enfin, ils auraient pu faire chier.
Ouais. Eh bien, dans ce cas-là, on va passer au sondage. Le sondage, vous le savez, à chaque fois... On va essayer de trouver, de vous proposer un titre pour le potentiel épisode qui sera dédié à Toro Rosso dans Drive to Survive. S'il y en a un, ça serait bien qu'il y en ait un. Il s'est passé plein de choses chez Toro Rosso cette année quand même. Même si on sait que la moitié des épisodes seront sur Günther Steiner, on le sait. Alors, tiens, bah, je vais commencer. Et ma proposition, ça sera de l'anglais. Last but not least. Parce que c'est la dernière de Toro Rosso. Mais deux podiums quand même.
Ouais, quand tu dois l'expliquer, c'est que c'est pas...
Bah, il faut en parler aux non-anglophones, attends.
Voilà. Messieurs, nous vous écoutons.
Ouais, j'ai pas été très inspiré, moi. Cette année, le taureau avait des ailes.
Oui, ils adorent le riz, oui.
Ah, avec Albon qui est... Oh, non. Pas comme ça. On va pas commencer l'année comme
du
ça.
Du basmati, oui, bien sûr. Gus Gus. Bouchard.
Tu cherches encore, hein, putain.
Oui.
J'ai encore une fois bien préparé mon coup, puisque j'ai. Alors moi, ce sera CRP, centre de recyclage de pilotes.
Pourquoi pas? Je suis pas sûr que ça gagne, mais pourquoi pas?
N'influençons pas les votes.
Commencez pas à vouloir me casser mon coup, sans déconner.
Ah, pas mal pour une écurie numéro 2.
C'est vrai.
Et puis c'est une petite référence à Mark Webber. Attends, je vais rajouter un point d'exclamation.
Tu sais que tu peux éditer les messages dans Discord.
Alors, messieurs, on sait qu'une page se tourne, que Toro Rosso va céder sa place à AlphaTauri, mais que finalement, ça va juste être cosmétique, hein, puisque rien d'autre ne change.
Ah, il faut
c'est
qu'il change
un ravalement de façade.
Il faut pas qu'ils fassent comme les autres, quoi. Il faut qu'ils changent la livrée, qu'il y ait des logos de la marque et tout. Enfin, sinon, on va encore s'y perdre. Moi,
peut-être une voiture noire et blanche.
On est 2020. J'appelle encore Sauber Alfa Romeo et enfin ou inversement.
Ouais.
Et
là, Alfa Romeo, Alfa Tauri, on va galérer, quoi.
Oui, c'est vrai en plus.
Chez Alfa, oui, mais laquelle?
Si on se base sur le logo Alfa Tauri, c'est noir et blanc.
Bah, du coup,
on serait en route la livrée test que Red Bull avait fait une année là, tout en noir et blanc machin.
Mais j'avais vu circuler en fait une idée. En fait, c'était la livrée Toro Rosso mais noir et blanche et ça rendait pas mal.
Ouais, en plus il y a pas de voiture. Ouais, il y a pas de voiture noir et blanc. Il y aurait peut-être As qui reprendra.
Non, parce que As c'est plus vers le gris déjà, gris avec un peu de rouge. Et Williams, il y a du blanc, mais il y a aussi beaucoup de bleu.
Non, mais Williams, on les reconnaîtra.
Oui. Là, ça pourrait être vraiment noir et blanc, donc assez différent quand même des autres écuries. Oui.
C'est dommage, on risque de perdre la plus belle livrée.
C'est vrai que ouais, ce bleu métallique...
C'était magnifique.
À la Prost.
Ouais.
Prost 2001.
C'est vrai, ça fait penser à la Prost, ouais. Et donc, quel destin pour AlphaTauri ? Est-ce qu'ils peuvent se maintenir à une sixième place ? Est-ce qu'ils peuvent progresser ?
S'ils se maintiennent à la sixième place, curieusement, ce sera un progrès. Ça voudra dire... Ça dépend du déroulement de la saison. Est-ce qu'il y aura aussi d'autres opportunités de marquer de gros points de manière surprenante ? Mais pour moi, il faut qu'ils jouent... ce rôle de manière continue. Enfin, faut au moins qu'ils puissent compter sur les éléments.
Bah, qu'ils soient là quand tout le monde casse, quoi. C'est ça que tu veux dire ?
Non, pour moi, justement, il faut qu'ils soient là à la régulière. Enfin,
ah oui, d'accord.
À la régulière, c'est un bien grand mot, encore une fois. Ils ont rien volé à personne. Hein.
Non, ils ont saisi les opportunités.
Ils ont su saisir les opportunités. Comme je ne sais plus qui le disait en début d'émission, c'est là l'occasion pour une écurie de prendre le dessus sur ses concurrentes avec le système de points qu'on a aujourd'hui et l'écart entre les trois top teams et le reste du plateau. Mais mine de rien, pour le long terme, ce sera plus intéressant pour eux d'y arriver sans ce genre de coup de pouce. Alors qu'ils parviennent à continuer à tirer profit des aléas, tant mieux. Mais qu'ils fassent preuve d'un meilleur rythme en tout point tout au long de la saison, ça leur fera que du bien.
Bouchard, par exemple, tu penses qu'ils peuvent se maintenir ?
Ben moi je pense qu'ils peuvent se maintenir et voilà, comme on l'a dit, c'est une écurie sympathique et c'est tout le mal que je leur souhaite.
Ouais, c'est ça, ça va pas être évident, mais c'est ce qu'on leur souhaite, quoi.
Et alors niveau pilote, vous pensez que là encore il y aura pas photo entre Gasly et Kvyat ou que ça peut être serré quand même?
Non, il y aura pas photo.
Non, logiquement il va être devant, ouais. Enfin ouais, Gasly sera devant.
Ouais.
Après ouais, il va pas lui mettre une pilule non plus, hein.
Ouais, s'il lui met la pilule, c'est louche, ça veut dire qu'il y a des suspicions, quoi. Il veut pas être enceinte et tout.
Il devrait se battre entre eux.
Et alors, question complètement anecdotique, mais est-ce que Kvyat va concourir avec son drapeau russe l'an prochain ?
Ah,
punaise, oui.
Oui, mais là, tu fais référence à des news d'il y a 2 semaines, bon, je sais pas. C'est un peu périmé ce que tu dis.
Voilà, vous le savez, il y a eu cette décision de l'AMA concernant la Russie. Alors, je sais pas où ça en est, mais la Russie a un délai pour faire appel, donc ça peut encore reporter la chose. Mais si ça se confirme, techniquement, faut rappeler que la FIA est une fédération reconnue par l'UCIO, et que donc, elle suit les recommandations de l'AMA, que la F1 fait partie des major events, en tant que championnat du monde. Et donc, pour les athlètes, ils sont normalement donc interdits de disputer tout major events, événement important, pendant 4 ans. Sauf si, alors bien évidemment, ils prouvent qu'ils ne sont pas rattachés au système de dopage étatique, tout ça. Bon, ça, a priori, on peut penser que pour Kvyat, c'est pas trop compliqué à prouver. Hein. Mais il est dit aussi que, même dans ce cas-là, les athlètes ne pourront pas concourir sous mandat, sous licence russe. Voilà.
Ils vont bien lui trouver une licence monégasque, une licence britannique.
Bon, après, dans le cas de Gviat, ça changerait quoi? Ça changerait le drapeau sur la voiture, et puis si jamais il fait un podium,
il n'y aura pas le drapeau.
Alors ça, c'est s'il gagne.
Oui.
Donc là, on est quand même encore sur une hypothèse encore plus rare.
La science-fiction.
Mais en effet, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas d'hymne russe.
Oui, mais n'oublie pas, c'est bien parce que ça s'afficherait un sacré bordel parce que les mecs seraient pas préparés que Kylian va bien réussir à faire une victoire en 2020.
En même temps, même s'il a le droit, je pense que ça serait tellement surprenant une victoire de Gviat que même dans ce cas-là, il saurait pas trop quoi faire.
Non mais là, on est quand même dans l'enculage de mouche des mecs qui lisent les règlements, quoi. C'est quand même... On touche le fond.
T'es bien placé pour savoir de quoi on parle.
Je sais pas de quoi vous parlez.
Non, a priori, c'est moins. Enfin, le cas de Gviat est quand même moins problématique que celui du Grand Prix de Russie, dont les organisateurs disent non, il n'y a pas de souci. La FIA a dit oh, attendez, on va attendre le texte de l'AMA pour avoir une position.
Oui, ils ont peut-être déjà publié le texte à l'heure actuelle.
Tout à fait. Et alors, justement, est-ce que vous pensez que AlphaTauri peut. Allez, un petit pari, est-ce qu'on pourrait voir une AlphaTauri sur un podium l'an prochain? Ils ont mis plus de 10 ans pour en refaire un.
Moi, je dis peu probable.
Ouais, c'est pas gay. Enfin, ouais. Après, ils n'auront pas changé leur niveau de pilote, ils n'auront pas changé rien du tout. Ça peut...
Allez. De toute façon, on peut partir de l'idée que si ça arrive, ça sera très circonstanciel quand même.
Ouais, non, c'est ça.
Ah bah oui.
Oui.
Enfin, la physionomie du top 3 va pas changer comme ça, quoi.
Oui.
Donc, bon, à la régulière, encore une fois, sur une course au déroulement entre gros guillemets classique.
Oui, non, on est d'accord.
En plus, encore une fois. Alors, peut-être que je l'ai dit dans le passé, peut-être que je l'ai dit dans le passé. Mais on change pas de pneus, donc il y a quand même une inconnue en moins sur la saison prochaine, quoi.
C'est vrai. Très bien, messieurs. Et bien, dans ce cas-là, nous arrivons à la fin de cette émission bilan de Toro Rosso. Arrivederci, Toro Rosso, pourra-t-on dire. Et bienvenue, AlphaTauri. N'oubliez pas, en tout cas, que pendant cette période de fin d'année et de début d'année, puisqu'on est en début d'année, il y a les émissions bilan. Il y a les sondages, mais il y a aussi le vote pour les SAV d'or. Hein, si vous n'avez pas encore voté, eh bien votez. Hein.
Mais...
Quelque chose.
Je sens l'enthousiasme autour de.
Ah, c'est-à-dire quand c'est quand même la. On ne va pas vous dire combienième fois que nous répétons la chose.
Non, c'est la sixième fois.
On espère que vous avez voté, quoi.
C'est la septième fois, pardon.
On ne sait plus.
Si, septième, sûr.
Très bien.
Tu avais sauté une ligne dans le planning, Gus.
Oui, c'est ça.
Et bien, sur ces sages paroles, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée. Salut à tous.
À demain, messieurs.
Salut.
Ciao.
Ne spoil pas.